Amen. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous ceux et à toutes celles que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Lors de mon dernier message, nous avions parlé ensemble de la louange au travers des psaumes. Alors évidemment que c'est un sujet vaste qui n'a pas non plus été complètement couvert, bien entendu. Mais la richesse de ces psaumes m'inspire quelque part et me pousse en fait à voir avec vous Christ à travers les psaumes. Alors là, il y a aussi énormément de références, énormément de textes qui parlent de ça. Et pour, disons, avoir quelque chose de véritable, de contrôler, si vous voulez, il est important de comparer ces textes entre eux et surtout avec ceux correspondant dans le Nouveau Testament, ce qui nous donne la confirmation de ce qui a été dit au niveau des psaumes. Attention, une chose aussi, c'est que la date de rédaction date de l'époque de Moïse pour les premiers, donc environ 1440 avant Jésus-Christ, et jusqu'à l'exil à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il y a quand même au moins pratiquement 6 siècles entre les choses qui ont été révélées dans ces psaumes, voire plus bien entendu, avant que les choses ne soient accomplies par Jésus-Christ. Alors il y a des passages qui sont connus, qui, vous allez voir ce matin, on peut pratiquement les dire par cœur. Si on regarde le premier psaume qui pourrait nous intéresser, c'est le psaume 2, et le verset 7e de ce psaume, je vous le cite. « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Je t'ai engendré aujourd'hui. Plusieurs psaumes sont appelés messianiques. À cause de leur description prophétique de Jésus le Messie, de sa vie à son règne futur, en passant par sa mort et sa résurrection. David est berger, soldat et roi, mais aussi prophète, puisque ce psaume décrit la révolte des nations et la venue du Christ pour l'instauration de son règne éternel. Choisi et désigné par onction, David savait que l'Éternel accomplira un jour sa promesse de faire venir le Messie dans le monde à travers sa lignée ou à travers sa descendance, si vous préférez. Nous avons une comparaison à cela dans l'Épître aux Hébreux, que nous allons voir ensemble, au chapitre... Voilà, ici que je perds ma... Excusez-moi. Ah ben voilà, les Hébreux sont partis. Oh, je ne les retrouve plus. Oh là là. C'est vrai? Formidable, je te remercie. Voilà, ouais, je crois que je vais y arriver finalement. Mais, ouais, vous vous rendez compte, c'est incroyable. J'avais mis une petite marque et là voilà, elle disparaît. Oh, c'est pas possible. Ben, je ne les ai plus, hein. Non, c'est incroyable ça. Pas possible. Bon, écoutez, c'est pas grave. Parce qu'en fait, dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, les versets 5 et 6, nous parlent d'un nom. Et Dieu a donné à Jésus un nom. Quel est le nom que Jésus a donné à, que Dieu a donné à Jésus? Il l'a appelé son fils. Et ça, c'est un nom qui est bien plus, remarquable, si on peut dire ça, que tout autre nom, puisque aux anges, il n'a pas donné des noms pareils. Il lui a donné quelque chose de supérieur. Dieu a attribué à Jésus le plus grand nom que les noms et les titres des anges, c'est celui de fils. Dans les familles juives, le fils aîné bénéficiait de plus grands privilèges. Il assumait aussi plus de responsabilités. Les croyants d'origine juive qui lisent ce message le comprennent bien. Si Jésus est fils premier-né de Dieu, cela signifie qu'il est supérieur à tout être créé. Donc, ce titre lui donnait la supériorité à tout être créé. Voilà, et c'était remarquable et remarqué surtout chez les Juifs qui avaient cette façon de voir les choses. Le deuxième passage se trouve au psaume 16e et c'est les versets 8 à 10. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. D'autres textes disent la corruption. Mais c'est la décomposition. Le Nouveau Testament voit dans ces versets l'annonce de la résurrection corporelle de Jésus. En affirmant qu'il n'est pas ébranlé, David exprime le sentiment de sécurité propre aux croyants. Dieu ne leur épargne pas les difficultés quotidiennes. Comme les non-croyants, ils connaissent la douleur et l'échec. Ceux qui connaissent Dieu peuvent avancer avec confiance, car ils savent ce qui est juste et peuvent s'appuyer sur la certitude qu'il les gardera sur le bon chemin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, nous lisons les versets 5 à 7. Il est question là des femmes qui vont au tombeau pour voir ce qui s'est passé et qu'elles arrivent là-bas. Et le texte nous dit ceci, « Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. » Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. La résurrection de Jésus est au centre de la foi chrétienne. L'existence même et l'histoire de l'Église reposent sur elle. On trouve de bons principes éthiques, des notions de paradis et de vie après la mort dans diverses religions. Mais seul le christianisme annonce un Dieu qui s'est fait homme. Il est littéralement mort pour les siens et ressuscité afin de régner pour toujours avec eux et sur eux. Et c'est la différence, une grande différence. Le troisième passage se trouve dans le psaume 22e, qui est un psaume qui est absolument inévitable si on veut parler de ce sujet. Et nous allons en lire quelques versets, disons, depuis le verset 2 au verset 22e. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourquoi ? Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. « Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été gardé sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile émalogue, s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il vivra l'agonie sur la croix. Cette dernière nous est décrite aussi dans les chapitres 26 et 27 de Matthieu. Mais au verset 16, on voit qu'il aura soif sur la croix. Et nous retrouvons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 19, au verset 28e que je cite. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Au verset 19, on se partagera ses vêtements, ce que nous confirme toujours le chapitre 19 et le verset suivant. Alors on va le lire ici, voilà. Alors cette fois j'ai trouvé, hein, c'est bon, j'y suis. Donc nous lisons le verset 28. « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Nous avons là confirmation de ce que nous a dit ici le passage du psaume 22e. On se partagera ces vêtements au verset 19e, ce que nous confirme bien sûr aussi Jean. Et si on regarde un peu plus loin, jusqu'au verset 23 et suivant, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Et ils prirent aussi sa tunique, nous le savons, mais comme elle était sans couture, d'une seule pièce, ils se dirent ceci, « Tirons-la au sort !» Parce que finalement, ça aurait été malheureux de déchirer une pièce de cette valeur pour savoir en fait à qui elle sera dévolue. C'est ainsi que s'est accomplie cette parole de l'Écriture. Ils ne l'ont pas déchiré, mais ils l'ont tiré au sort. Le 4e passage se trouve dans le psaume 34e et au verset 21. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Ce verset a une portée prophétique en rapport avec la crucifixion de Christ. La coutume romaine voulait qu'on brise les jambes du crucifié pour accélérer sa mort. Parce que vous savez que la mort sur la croix, c'est une mort par tétanisation. Ça veut dire que tous les muscles se tétanisent, il n'y a plus d'oxygène qui circule, et c'est des crampes finalement, des crampes terribles qui font qu'on meurt. Et pour activer ça, au lieu de pouvoir se tenir un peu, eh bien non, on casse les jambes, comme ça le corps descend Et puis là, c'est pratiquement assuré que la mort va suivre très bientôt. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas très réjouissant de parler de ça ce matin, mais il faut se rappeler que ça a été quelque chose que le Seigneur a enduré pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il a payé pour nous à la croix. C'est pas autre chose, hein. Il a pris notre place. Je sais pas si on aurait fait bonne figure là, crucifié comme ça, hein. J'ai bien l'impression que, on aurait pas tant apprécié, je crois. Les versets 35 et 37, toujours du chapitre 19, se disent ceci. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Les soldats, quand ils se sont approchés de lui, ont vu qu'il était déjà mort. Christ était déjà mort. Et ils lui ont percé le côté avec une lance. Aussitôt, il est sorti de l'eau et du sang. Donc, c'est confirmé. Ce que le psaume nous disait se confirme dans ce chapitre 19e. On lui offrira du vinaigre sur la croix. Nous le lisons dans Matthieu 27, au verset 48. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Ça ne devait pas être tant sympa de boire du vinaigre, hein. Mais enfin. Le sixième passage se trouve dans le psaume 68e et c'est le verset 19e. Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront auprès de l'Éternel Dieu, il montera au ciel. Et dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4e, les versets 8 à 10 nous confirment cela. Éphésiens. Alors, cela je vais les retrouver, les voilà. C'est pourquoi il est dit ceci, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi, d'abord bien sûr, descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Voilà, c'est notre Seigneur. C'est lui, il a rempli les cieux, tout l'univers. Le septième passage se trouve dans le psaume 96e. Psaume 96e, où il a dit, parce que vous savez qu'il reviendra pour juger le monde, que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, car il vient pour juger la terre. Et je crois qu'il y a un chant qu'on chante où il est question des arbres qui battent des mains et qui manifestent une certaine joie. C'est à cause de ça. C'est la raison de ce cantique-là. Dans le deuxième livre à Timothée, la deuxième épître, au chapitre 1er, les versets 9 et 10. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est vrai, c'est lui qui a dominé, vaincu la mort et ses affres. Il les a vaincus. Et où les a-t-il vaincus? Sur la croix. Un huitième et dernier point, c'est le psaume 118e et le verset 22e. C'est connu, c'est un psaume qui parle de la pierre angulaire. La pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Jésus cite ce verset lorsqu'il mentionne son rejet par ses compatriotes. Bien que de nombreux Juifs n'aient pas voulu reconnaître en lui le Messie, il est maintenant la pierre angulaire de l'Église, c'est-à-dire son élément le plus important, essentiel à son existence et bien sûr à sa solidité. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, nous lisons les versets 6 à 8. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. » La richesse du livre des psaumes est telle qu'il y aurait encore de nombreuses choses à souligner. Mais je termine ce message en rappelant encore que ce livre contient des enseignements et des encouragements pour toutes nos circonstances, aussi diverses soient-elles. Et on peut se rendre compte par la lecture de certains psaumes qu'il est question de dépression, qu'il est question de crainte, qu'il est question d'énormément de choses qui nous occupent, nous, tous les jours, et qu'on trouve au travers des psaumes. Donc les psaumes sont des passages de lecture qui sont adaptés à toutes nos circonstances, à toutes les circonstances que nous sommes appelés à traverser. Alors, c'est une lecture qui est peut-être ancienne par rapport à sa manière d'être écrite, mais qui a toute sa réalité aujourd'hui et qui entre vraiment dans notre quotidien. Que le Seigneur bénisse sa parole parmi nous. Amen.